ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Je fais le bilan depuis ma naissance et dans mon désespoir, je me rappelle qu'il y a une vie après la mort. Je n'ai aucun problème. Mais je me demande, ô Dieu, y a-t-il une vie avant la mort ? Mourid Al-Barghouti, 1944-2021. Cette citation apparaît au début d'une anthologie de la poésie gazaoui d'aujourd'hui, intitulée « Gaza, y a-t-il une vie avant la mort ?» parue en avril 2025 aux éditions Point, dans une collection dirigée par l'auteur franco-congolais Alain Mabankou. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio B. L'émission du mois d'avril était axée sur l'esprit de résistance. Et pour celle du mois de mai que je vous propose aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle se situe au-delà de la résistance que peuvent endurer des êtres humains lorsque la vie devient insupportable et qu'il n'y a plus la moindre lueur d'espoir. Le titre de cette anthologie, « Y a-t-il une vie avant la mort ?» emprunté à Mourid Al-Barghouti, est sans appel et témoigne froidement de la douleur d'un peuple qu'on assassine. Alors, dans la lignée d'Aimé Césaire, qui en son temps a qualifié la poésie d'arme miraculeuse capable de tuer le virus de la haine, écoutons ces hommes et ces femmes, poètes en Palestine ou en exil, dont les mots sont les derniers remparts contre la barbarie que subit leur peuple. Les poèmes de cette anthologie ont été réunis par le Marocain Yassine Adnan, poète et romancier, cofondateur de la revue L'Algarade Poétique, également concepteur et animateur d'émissions littéraires télévisées au Maroc et en Égypte. Il s'agit de textes écrits par 26 poètes gazaouis qui ont été traduits de l'arabe par l'écrivain marocain Abdellatif Lahabi, dont j'ai déjà lu des poèmes dans mes émissions précédentes, et qui est une des grandes voix de la poésie arabe. Dans sa préface, Abdellatif Lahabi dit ceci. Dans l'anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, publiée en 2022, Marwan Makoul, l'un des poètes qui y sont représentés, dit ceci. « Pour écrire une poésie qui ne soit pas politique, je dois écouter les oiseaux. Et pour écouter les oiseaux, il faut que le bruit du bombardier cesse. » Ces quelques vers ont eu, de façon inattendue, un retentissement mondial. Ils ont été calligraphiés sur des pancartes et brandis dans plusieurs pays, dans des manifestations massives de soutien au peuple palestinien. Ils ont été imprimés sur des t-shirts et portés par beaucoup de jeunes. L'un de ceux-ci n'a pas hésité à les tatouer sur son bras. Plusieurs musiciens et vidéastes s'en sont emparés pour les répercuter autrement, dans des formes susceptibles de toucher le plus grand nombre. Gaza. Ce nom qui, juste à le prononcer, écorche les lèvres et brûle les poumons. Gaza, d'abord prison, ensuite mouroir à ciel ouvert. Gaza où les principes d'espérance, de justice, de liberté, de fraternité, de paix n'existent que dans de vieux dictionnaires dont personne ne veut plus, dans la mémoire défaillante de vieillards abandonnés au milieu des ruines et devant lesquels les tueurs passent en détournant le regard. Gaza rayé de la carte, dit-on. Alors que des survivants sont là, dans on ne sait quel cercle de l'enfer, en tout cas celui où l'espoir a été aboli, où l'on ne peut plus enterrer le corps entier de son cher défunt, mais juste des fragments, des lambeaux, une tête si on a de la chance, où les enfants sont peut-être les seuls à n'être pas entièrement terrassés par la catastrophe, car ils en voient le spectacle avec des yeux vierges, n'ayant pas eu le temps de découvrir chez les adultes ce qu'aucune bête n'est capable de faire, de voyager dans le passé et l'avenir sombre de l'espèce dite humaine. Gaza où manger, a fortiori se soigner, dormir sous un toit en dur, appartiennent à un âge d'or plus légendaire que réel. Les 26 voix gazaouis, féminines et masculines, que nous donnons à entendre dans cette anthologie, ne supporteront probablement pas que des voix extérieures. Même les mieux intentionnées et solidaires viennent brouiller la crudité des leurs. Leurs muses incontrôlables envoient les sanglots, les bégaiements, les râles, les accès d'aphasie face à une réalité apocalyptique où les mots se vident de leur substance et où il devient illusoire de chercher dans le vécu le moindre bout de sens. Ces voix n'ont pas besoin de nos analyses pseudo-savantes, du minimum syndical de notre indignation et des trémolos de notre compassion. D'elles, on peut accepter avec humilité qu'elles nous rudoient. Taisez-vous, laissez-nous parler. Nous avons des choses à dire au monde et nous le faisons avec les moyens du bord. Dans un terrain où jamais la poésie n'a mis les pieds, dans une pénurie extrême de lumière, d'air, d'eau, de n'importe quoi que l'on puisse se mettre sous la dent. Nous avons l'impression d'écrire dans les ténèbres d'un inframonde où ne nous parviennent que les échos sourds des bombardements et les minces filets de voix des agonisants. Taisez-vous, laissez-nous parler. Ce florilège nous donne un concentré de ce que cette anthologie nous réserve, une plongée dans l'histoire tragique qui se déroule sous nos yeux à Gaza, ce que les poétesses et les poètes appartenant, qu'ils y résident ou fassent partie de la diaspora, à ce bout de Palestine abandonné par les dieux et les hommes, parviennent à nous transmettre les dernières pépites de ce qu'ils ont sauvegardé en eux, de leur indéracinable identité humaine. Ayant fréquenté, défendu et illustré la poésie palestinienne depuis plus d'un demi-siècle, j'ai tendance à penser que celle-ci, génération après génération, a fait sienne cette idée que je ne suis pas mécontent d'avoir exprimée. Un peuple ne peut triompher de son oppresseur que s'il lui est supérieur moralement. Les voix qui s'élèvent de ce livre honorent largement les attendus d'une telle éthique. Puisse l'empire de la mort ne pas submerger l'îlot prodigieux de la poésie. Abdelatif Lahabi, Créteil, fin octobre 2024. Ce premier morceau est issu d'un album sorti en mars 2025 qui va accompagner tout au long de cette heure les poèmes que vous allez entendre. Et ce n'est pas par hasard que je l'ai choisi car le compositeur et oudiste tunisien Anouar Brahem a écrit ses musiques et les a enregistrées au moment même où les bombes pleuvaient sur Gaza. Et pour cet artiste, depuis longtemps sensibilisé d'une part à la cause palestinienne et d'autre part à la poésie de Mahmoud Darwish qui lui a inspiré un précédent disque, sa douleur et son indignation ressentie face au sort des habitants de Gaza ont irrigué les morceaux de cet album, dont les titres ont tous un lien avec la Palestine. Anouar Brahem, qui joue du oud, est accompagné ici de deux musiciens anglais, le pianiste Django Bates et le contrebassiste Dave Holland, auxquels vient s'ajouter une violoncelliste allemande qui est aussi fabuleuse à entendre dans le répertoire classique que dans le jazz et qui s'appelle Anya Lechner. Les auteurs et les autrices figurant dans cette anthologie sont présentés brièvement. Je reprendrai donc tout ou partie de ces éléments pour vous situer chacune et chacun d'entre eux. Je n'aurai malheureusement pas le temps en une heure de vous les faire entendre tous. C'est pourquoi je vous engage vivement à vous procurer cette anthologie afin de la découvrir dans son intégralité. Rifat al-Aher est né en 1979 à Gaza. Il écrit tant en anglais qu'en arabe. Il a enseigné les littératures du monde et dirigé des ateliers d'écriture à l'Université islamique de Gaza. Parmi ses œuvres, deux recueils de nouvelles, « Gaza ne se taira pas » et « Encore une fois, Gaza écrit ». Il est mort, victime d'un bombardement israélien le 6 décembre 2023. Une bonne partie de sa famille, adultes et enfants, subira le même sort, en même temps que lui ou quelques semaines après. Son poème testamentaire « Si je dois mourir » a attiré l'attention de l'opinion mondiale sur la tragédie qui se déroule à Gaza. « Si je dois mourir, il faut que toi, tu vives pour raconter mon histoire, vendre mes affaires, afin d'acheter du fil et une pièce de tissu. Choisis la blanche avec de longues franges pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse apercevoir un cerf-volant alors qu'il scrute le ciel en attendant son père qui s'en est allé brusquement, sans que personne fasse ses adieux, ni à son corps, ni à son âme. Pour que cet enfant aperçoive dans les hauteurs le cerf-volant, mon cerf-volant que tu auras toi-même fabriqué, et qu'il s'imagine, l'espace d'un instant, qu'il y a là-haut un ange qui s'en vient pour rapporter l'amour. Si je dois mourir, que ma mort soit porteuse d'espoir et qu'elle devienne une histoire. Noureddin Hajjaj est né en 1996 à Gaza, licencié en mathématiques de l'université Al-Azhar de sa ville natale. Poète et nouvelliste, il a été tué dans sa maison le 3 décembre 2023 par une frappe de l'armée israélienne. Dernière lettre, 28-10-2023. Bonsoir le monde. Depuis la nuit dernière, le téléphone et Internet ne fonctionnent plus. Ce que j'ai pu un jour considérer comme impossible est devenu tout à coup une réalité, mais dans des conditions différentes. Le facteur ne pourra pas passer à cause des tirs et de la dévastation. Chaque jour, ces journaux ne pourront apporter qu'une seule nouvelle. Gaza est en train d'être rayé de la carte. Chaque jour, la ville la quitte, sans réapparaître le jour suivant. Qui sait, la nouvelle de ma mort sera publiée demain. C'est ce qui m'a traversé l'esprit quand le téléphone et Internet ont été coupés, ce qui nous a coupés du monde. Les tirs se sont intensifiés. Voilà que ce que nous redoutions approche. Nous mourrons en silence, sans que le monde en sache quoi que ce soit, sans pouvoir crier ou enregistrer nos derniers instants, nos dernières paroles. Je vis dans un petit quartier qui s'appelle Al-Shujaya, situé aux confins est de la ville de Gaza. Chaque nuit, les explosions de toutes sortes et venant de toutes parts sont incessantes. C'est pourquoi nous nous serrons les uns contre les autres à chaque détonation qui fait trembler notre maison et nos cœurs, en sachant que nous n'entendrons pas l'une d'elles, car ce sera celle qui nous aura pulvérisés. Et voilà pourquoi j'écris maintenant. Peut-être la présente serait-elle ma dernière lettre qui parcourrait le monde et s'envolerait avec les colombes de la paix. Elle dirait au monde que nous aimons la vie autant que possible, mais qu'à Gaza, toutes les routes et les issues sont fermées, et ce qui nous sépare de la mort ne dure pas plus qu'une nouvelle de dernière minute ou un bref gazouillis. Bon, je vais commencer. Je suis Noureddin Adnan Hajjaj, écrivain palestinien. J'ai 27 ans et de nombreux rêves. Je ne me réduis pas à un chiffre et je refuse que la nouvelle de ma mort passe inaperçue sans que vous disiez que cet homme-là aimait la vie, le bonheur, la liberté, le rire des enfants, la mer, le café, l'écriture, Férouz et tout ce qui comble de joie avant que ces choses ne disparaissent en un claquement de doigts. Un de mes rêves est que mes livres et mes écrits voyagent à travers le monde, que ma plume acquiert des ailes, que n'arrêtent ni les passeports non tamponnés, ni les visas refusés. Un autre rêve, avoir une petite famille et pouvoir bercer mon jeune fils, qui aura hérité de mes traits, en lui racontant l'histoire qui préparera son sommeil. Reste mon grand rêve, que la paix règne dans mon pays, que les rires des enfants fusent avant le lever du soleil, que nous semions une rose partout où une bombe est tombée, que nous dessinions notre liberté sur chaque mur écroulé, que la guerre nous laisse tranquilles pour que nous puissions enfin vivre notre vie pour une fois. Qui a volé l'eau ? Qui a mis le feu aux sentiments ? Qui a miné le rire ? Qui a jeté la catastrophe dans notre quotidien ? Qui nous a fait miroiter le salut ? Qui nous a dénudés ? Qui a effacé notre question ? Qui a clôturé de peur nos yeux ? De départ forcé nos cœurs ? Qui a colonisé la proscription et pris ses aises dans notre soumission ? Qui a traîné la paix dans la boue, retiré la faim de son fourreau ? Qui a rendu le visage orphelin et ôté l'étonnement de ses traits ? Qui a menacé la curiosité et percé le temps ? Qui a numéroté l'éternité et ouvert le portail de l'enfer ? Qui a sorti les batailles du sommet du baroud, du sommeil du baroud ? Qui a fait peur aux pas lents et malmené la route ? Qui a terrorisé l'avenue, kidnappé le regret et condamné l'excuse ? Qui a versé le sang de la victime et lustré sa saignée ? Qui a agressé l'effluve de la rose et fait la noce dans l'imagination de Dieu ? Qui a brisé le silence ? Qui a humilié les rides ? Qui a découpé le cri ? Qui a fait s'échapper les larmes et a embrassé la pénombre ? Qui a fait bouillir le matin, a écorché l'après-midi et ôté sa féerie au coucher du soleil ? Qui a pillé l'idée et monnayé le désespoir ? Qui a dénaturé la solitude ? Qui a dilapidé la beauté ? Qui a intimidé la jambe qui danse et conspué le bracelet de sa cheville ? Qui a ouvert le corps, violé l'âme et laissé tomber les grains du chapelet de la mémoire sur les tambours du monde ? C'était un texte de Hesham Abou Asaker, né en 1990 à Gaza. Il réside aujourd'hui à Istanbul. Chroniqueur dans la presse arabe, il a également publié deux recueils de poèmes, « L'oubli viole notre ville » en 2012, « Des morts gouvernant le monde » en 2017. Et il a participé en 2024 à un ouvrage collectif, « Zéro de l'écriture, chronique de la guerre qui s'est abattue sur Gaza ». Kawtar Abou Hani est née en 1989 à Gaza. Elle y a grandi, avant de s'expatrier en Suède où elle vit actuellement. Elle a publié des livres pour enfants traduits dans plusieurs langues. Son père a été tué récemment lors d'un bombardement israélien. Mon père est né sous une tente en 1950 et il est mort sous une tente en 2024, a-t-elle écrit. J'écris sur la guerre attablé au café Nero dans le centre de Stockholm. Depuis un an, je suis comme un sac de patates me transportant d'un sofa à l'autre. Même au café Nero, j'ai trouvé un sofa et suis devenue une de ses habituées. J'ai commandé un cappuccino au lait d'avoine géant. Je n'ai pas d'allergie au lait. J'aime l'avoine car j'ai découvert que j'en préférais le goût. Ici, je peux essayer de nouvelles choses à la place de celles auxquelles je m'étais habituée. L'occasion m'en est souvent offerte, contrairement à ce qui se passe pour eux à Gaza. Je croque un gâteau à la cannelle parfumé de cardamome. Cela a le goût d'un plat de ma mère. Ici, on utilise la cardamome dans les gâteaux et non pas comme vous dans les plats cuisinés. La guerre a pris fin, j'ai oublié depuis quand. C'est que je m'informe lors de mes communications téléphoniques avec ma mère. De son point de vue, il n'y a nulle guerre. Chaque fois, elle me rassure. La guerre est permanente. De quelle trêve parle-t-on ? Il n'y a qu'une seule guerre qui a commencé depuis la nuit des temps et ne s'est pas achevée. Après elle, aucune guerre ne s'est produite. Maintenant, à force de douleur, vous vous rongez le cœur et moi, j'écris sur vous en toute tranquillité. J'ai anesthésié mes sentiments pour pouvoir écrire sur vous. Êtes-vous tous, comme moi, affectés par le syndrome post-traumatique ? Les avions évoquent pour mon ami suédois les vacances d'été et le voyage à Majorque, alors qu'il me rappelle le moment choisi pour la tuerie et la dispersion. J'ai effacé vos photos de mon téléphone et dans Facebook, j'ai appuyé sur la touche « Delete » pour ne plus voir couler le sang chaque jour. Je sais, vous pouvez faire de même, mais vous ne parviendrez pas à effacer le sang, les maisons détruites au bord des chemins que vous empruntez chaque jour. Mozab Abou Toa est né en 1922 dans un camp à Gaza. Son premier recueil de poésie, ce que vous trouverez caché dans mon oreille, a d'abord été publié en 2022 en traduction anglaise, puis 2 ans plus tard en traduction française. Il a fondé en 2017 à Gazaville la librairie Edward Said, spécialisée en livres de langue anglaise, détruite lors des bombardements. Événement suspendu. Si l'année pouvait compter moins de 12 mois, je vivrais plus d'années, fêterais plus d'anniversaires et d'années nouvelles illuminées par les lanternes de notre rue dans le camp. Si l'alphabet pouvait compter 29 lettres, les fenêtres de nos maisons seraient plus nombreuses, mes nouvelles et mes poèmes auraient davantage de mots et la quantité de livres sur les étagères de mon bureau serait plus élevée. S'il y avait 5 saisons, je verrais la terre beaucoup mieux. Les fleurs auraient de nouvelles couleurs, des couleurs que je pourrais peut-être appeler rosicelle, narcisselle, glaïeulise, amarcessible. S'il y avait 5 directions, je retrouverais mon pays en train de se construire avec son drapeau, de composer les lettres de son nom en une seule lettre et d'interpréter son hymne avec toute pierre qui tomberait sur les cordes de la poussière. Ahmed Achour est né en 1994 à Gaza. Il travaille dans les réseaux de la société civile. Il a publié en 2018 un recueil de poèmes sous le titre « Blessure s'essayant elle-même ». Une seule heure. Nous aimerions jouir d'une seule heure où ne tomberait pas une nouvelle urgente. Une heure où nous nous appellerions, une heure où nous nous rappellerions ce que pourrait être le ciel sans avion et la terre sans bulldozer ni blindé. une heure où nous cesserions de remplir notre fonction de pourvoyeur d'écrans de télévision et de cimetière. Une heure pour faire provision d'enfants, de blé, de farine et de tout ce qui pourrait être moulu. Nous voudrions retrouver notre capacité d'enfanter à tout va, nous exercer de nouveau à la façon de construire une famille, à voir comment grandir un enfant dans sa chambre sans qu'une frappe en fasse voler la porte. Une heure pour palper la substance des jours anciens. Comment nous rentrions sains et saufs à la maison, accrochions nos manteaux et nos clés, sans la hantise de devoir tout quitter, sans le goût des boîtes de conserve, sans une tente, une corde et un pieu. Une heure pour déballer, ranger, ôter une montagne de notre poitrine. Une heure pour nos aimés qui chercheraient dans nos blessures du sel pour le plat du jour. Une heure, ô mon Dieu, pour notre éparpillement, les lambeaux de nos corps, pour distinguer nos têtes de nos pieds. Une heure pour que l'être humain se dévête de sa cape de résistance et apparaisse en pleurs, tuméfié, brisé. Yahya Achour est né à Gaza en 1998. Il a publié dans une maison d'édition de Ramallah un conte et un recueil de poèmes pour la jeunesse. Depuis le début de la guerre, il s'est trouvé bloqué aux États-Unis. Matière ouverte à la discussion. Cette fois-ci, je n'écrirai pas sur la guerre ni sur la trêve. Je ne supporte plus les arbres et leurs ombres. Pas un mot ne sortira de ma bouche et je ne bougerai pas le petit doigt pour éviter de devenir un mythe sur Internet et pour que le monde ne m'assiège pas de nouveau avec ses livres, ses articles et ses conférences. Je veux glorifier l'inanité et la bénir. Se noyer dans les arts ne tue plus. Au fond, l'art est une idée qui n'est pas à notre portée et nous n'avons aucun lien avec la beauté, de la même façon que le monde n'a aucun lien avec nous. Cette fois-ci, je n'écrirai pas un seul mot sur mes ennemis. Je ne les mettrai pas à nu devant le monde. Je ne leur permettrai pas de faire de mes blessures une matière ouverte à la discussion. Je partagerai avec le monde son silence, son désespoir et sa mauvaise conscience, sa perte d'intérêt à s'informer et bien sûr, je partagerai avec lui son impuissance totale. Cette fois-ci, je vais troquer tout ce en quoi je crois contre tout ce en quoi je n'ai jamais cru. Adam Al-Akkad est né en 1997 à Gaza, près de Khan Younes. Il a publié un recueil de nouvelles intitulé « Quand les oiseaux meurent, ne pensez pas à les réveiller ». Confession. Je m'appelle Adam Al-Akkad. Mon père est un homme qui aime beaucoup Dieu. Ma mère, plus que quiconque, en sait des choses sur le Créateur. J'ai des frères strictement obéissants. Je ne les ai pas vus depuis longtemps. L'un d'eux connaît plus de jurons que moi et dans de nombreuses langues. Un autre a intégré sans réserve l'idée du kismet. Moi, Adam, je suis né en toute fin de l'année 1997. Le médecin avait dit « il a couru un danger ». L'infirmière avait dit « nous avons difficilement stoppé l'hémorragie ». Mon poids était inférieur à la normale. J'ai tardé à ramper, marcher, parler. J'ai eu plusieurs accidents. Personne ne m'a secouru, sauf ma mère, Tahani, et encore par hasard. J'ai grandi. Une crèche islamique m'a accueilli. J'ai appris l'alphabet, les chiffres et la sourate Al-Fatiha. J'ai grandi un peu plus. Une école, jadis lieu de commandement britannique, m'a ouvert ses portes. J'ai appris le calcul, des rudiments de science, des chants patriotiques et à bien me tenir lors des funérailles. J'ai grandi davantage. Une autre école m'a admis. C'était encore, au temps des Britanniques, un centre de détention des résistants arabes. J'y ai mieux appris le calcul, les multiplications, les additions, les divisions, les soustractions. J'ai grandi beaucoup plus et j'ai appris au seul son de l'explosion, combien de martyrs allaient tomber et à supputer le nombre des survivants. En cela, je ne me suis jamais trompée. Là où j'étais, j'entendais l'explosion et j'écrivais sur une feuille 5, 6, 7. J'ai appris ce que veulent dire la perte, l'errance, n'être protégé que par une tente, se contenter d'une bougie pour s'éclairer pendant toute une nuit. J'ai continué à grandir. L'université m'a ouvert ses portes. J'ai appris que la valeur d'un être humain équivaut à ce qu'il a dans la poche. Rien de sa méchanceté, de ses intentions, de l'origine de ses méfaits ne m'est resté inconnu. Walid Al-Akkad, poète et nouvelliste, est né en 1992 à Khan Younes. Il a dû quitter sa ville natale pour le camp d'Al-Mawazi, en zone côtière. Il a obtenu une licence de lettres et de communication à l'Université de Palestine, détruite lors de la guerre de 2014. Sans tête, ils l'ont porté dans un petit linceul et l'ont soulevé vers le ciel, comme une offrande au dieu de la guerre. avec ses asticots et sa chair. Ils l'ont présenté incomplet, avec ses os brisés et sa peau mutilée, sur une table ouverte. Dépouille d'un enfant affamé, dont le monde entier déchire à belles dents la chair. Je veux des yeux pouvant pleurer tout le temps, des pas capables de parvenir à quelque chose que j'ignore, car il y a quelque chose que nous ignorons et où nous aimerions retourner, à l'image des terres qui retournent à leur nature et crient, des sourires qui font de même et s'éclipsent, des rues qui ne sont pas en reste et se remémorent les pas des passants. Je veux quelque chose à quoi revenir et une porte de derrière pour la fuite. Je veux serrer contre moi tout ce que j'ai perdu d'un coup. C'est pourquoi je veux un puits de mains et de corps, un bâton sur quoi m'appuyer, une route vers où marcher et une larme que je chargerai de tous les ports d'attache chaleureux et d'histoire. Puisse-t-il se dissoudre et que le ciel qui et que le sel qui y fond devienne une chose nouvelle. Même si ce n'est qu'une poupée, je l'aimerai. Je veux un rivage que j'aime, qui m'aime et nous aime. Je veux une lumière qui n'éclaire pas et n'entre nulle part. Je la veux vraie et qu'elle se mette à construire, à restituer quelque chose, à s'acheminer vers nous. Je veux qu'un seul enfant revienne à la vie, même s'il se présente renfrogné, larmoyant. Je veux qu'il arrive, qu'il court vers quelque chose qui ne soit pas une forêt, une mer, un conte, mais une idée. Une seule idée sur la sécurité disparue dans un puits de trépassés et d'orphelins. Inconnue. Lorsqu'elle est née, sa mère a eu du mal à lui choisir un nom. Alors elle lui en a choisi un assez simple. Le père en a tiré un joli surnom que toute la famille a adopté. Lorsqu'elle a un peu grandi, la première chose qu'elle a apprise de l'alphabet, ce furent les lettres de son prénom. Elle se mit à les écrire sur les murs et les bancs de la salle de classe, les murs de la maison, les vitres des voitures, les miroirs, sans se soucier de quelque punition. Lorsqu'elle tomba amoureuse, ce fut d'un jeune homme qui écrivait son nom sur tous les troncs d'arbres qu'il rencontrait et sur le sable au bord de la mer. Son restaurant favori était celui qui gravait son nom sur les plats, les gâteaux et les verres de café glacés. Les cadeaux qu'elle adorait, un collier et un bracelet avec son nom gravé. Et aujourd'hui, elle est couchée sur le sol de l'hôpital, couverte d'un drap blanc, sur lequel a été gribouillé ce mot. Inconnu. Les deux textes que vous venez d'entendre ont été écrits par deux femmes. La première s'appelle Nour Baaloucha. Elle est née dans le nord de Gaza en 1988. Elle vit actuellement à Bruxelles. Elle prépare une thèse ayant pour sujet la Palestine et la colonisation, en lien avec le département des études sur le Proche-Orient de l'Université de Stockholm. Elle a publié une pièce de théâtre intitulée « Le jeûne du piano ». La deuxième s'appelle Chorouk Mohamed Dogmosh. Elle est née en 1996, a fait des études de langue et lettres arabes à l'université Al-Azhar de Gaza. Elle est poétesse et nouvelliste et elle vit actuellement à Deir al-Balah. Ashraf Fayad est poète et plasticien. Il est né à Gaza en 1980. Il quitte sa terre natale pour s'installer en Arabie Saoudite. En 2014, il est arrêté après la publication à Beyrouth de son premier recueil de poèmes, dont certains textes sont jugés blasphématoires et portant atteinte à la foi des croyants. Il est d'abord condamné à la peine capitale, commué plus tard en 8 ans d'emprisonnement grâce à une campagne internationale de solidarité en sa faveur. Libéré en août 2022, il ne peut pas quitter le territoire saoudien. Deux de ses recueils de poésie ont été traduits en français. « Instruction à l'intérieur » au temps des cerises en 2015 et « Je vis des moments difficiles » à la Maison de la Poésie Rhône-Alpes en 2019. Avant que la guerre ne finisse. Il fallait que la dévastation se réserve la part du lion, que l'acuité de la douleur atteigne des sommets tant que les humains avaient choisi de faire du monde un lieu sûr. Voilà bien des siècles, sans jamais y réussir. Lorsque l'attente était devenue un choix, ma patience était déjà à bout et la guerre n'a pas cessé. Cela commençait à ressembler à une série de dessins animés où le méchant n'est jamais à court d'idées, malgré la victoire du bien lors de la précédente bataille, que nous espérions être la dernière. À bord de cette planète, seul l'être humain porte en lui le mal comme un attribut véridique. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment la mort, à tout moment, est-elle devenue un choix envisageable et probable? Comment la mer a-t-elle renoncé à son bleu au profit du sang, au profit du rouge, qui perd sa qualité une fois plongée dans l'eau? Mais le rouge reste rouge et la mer n'en peut plus de ce qui se passe sur terre, comme nos yeux n'en peuvent plus de la brûlure des larmes, de la lueur des explosions et de la vue des restes humains carbonisés. La mer n'en peut plus de la neutralité du ciel et de l'obscurité qui s'est effondrée sous le joug de la peur. Elle a renoncé à sa prééminence pour protester en premier lieu contre la simple existence de la raison humaine. Dans un autre lieu du monde, et partout ailleurs dans le monde, les enfants naissent et obtiennent, sans bourse déliée, un pays. Nous devons, quant à nous, offrir notre vie pour obtenir un pays, juste pour y être enterrés, et encore, si nous avons de la chance. Il ne nous suffit pas que le monde ait des regrets. Ni la mauvaise conscience, ni les oraisons funèbres lestées de tristesse ne guériront nos blessures. Nous ne nous enorgueillissons pas d'un monde tel que celui-ci, et nous ne le reconnaissons pas. Nous ne sommes convaincus d'aucune de ces valeurs dont nous n'avons connu que l'aspect théorique, strictement inapplicable. Anis Ghanima est né en 1992 dans la ville de Gaza. Il a obtenu pour son livre « Funérailles d'un prestidigitateur » le prix du jeune écrivain en poésie, décerné par la Fondation Al-Katan à Londres en 2017. Il vit aujourd'hui dans une localité du centre de Gaza. Si peu enviable. J'ai enfin une chambre. Depuis 1948, l'air n'y est pas entré. C'est pourquoi je l'ai transformé en théâtre. Chaque nuit, je déclame sur scène un poème devant un public absent, jouissant de la musique des douleurs interprétée sans que personne l'écoute. J'ai une rose qui se fanera bientôt, je crois. J'écris seulement pour lui exprimer mon admiration. Et j'ai un chien acheté à des amis avec mes derniers sous. Chaque nuit, je sors me promener en compagnie d'un corbeau égaré. Je suis toujours en possession d'un vélo que j'ai volé à un enfant. Chaque jour, je parcours 45 kilomètres sans m'en rendre compte. Avec tout cela, je sais que je suis seul ici, étranger. Mon rêve est de rencontrer une femme dans l'escalier. Là, je lui offrirai mon premier recueil de poèmes en sachant d'avance qu'il ne lui plaira pas. Conteur. Dépouille-toi de la peau de l'agneau, laisse hurler le loup. C'est que la route a été conçue pour ses semblables. Lâche-le et suis prudemment ses pas, titube et relève-toi. Écorche tes genoux et tes chevilles, ne te préoccupe pas des épines. Le chemin est sciemment apprêté pour sucer ton sang. Chaque fois que le fardeau te pèse, débarrasse-toi de la poussière de celui que tu as aimé, que tu as oublié. Pleurer. Le voyage ne se concrétise qu'avec le feu de la mémoire. Que la flamme de celle-ci sorte de tes pores, tes oreilles, tes yeux et ta bouche, de ce giron de ton secret splendide. Fortifie-toi de ce que tu as appris, des chuchotements de ceux qui t'entourent sans qu'ils s'en rendent compte. Et mets dans ta besace une poignée d'invocations de la femme qui, jadis, a scellé la douleur, puis l'a transmutée en sucre lorsqu'elle l'a plantée en toi. Emporte un foulard soyeux pour y recueillir ton sang encombré, auquel le chemin aura donné une forme différente. Suce-le quand le soleil tapera fort sur ta tête. Seul un nuage de la taille d'un doigt t'en protégera. N'aie pas peur. Tu apprécieras du soleil le goût de sang. Va jusqu'au bout de ta route. Et ne t'inquiète pas si de petites roses rouges poussent quand tu poursuis ta marche. Le sang ne coule pas en vain, il est fils de la terre. Chemin faisant, ramasse un caillou. Qu'il ne soit surtout pas lisse, sinon ton vœu ne se réaliserait qu'à moitié. Choisis-le hérissé d'excroissance, tranchant comme les serres d'un faucon. Laisse-le masser ton corps. Et quand le souvenir ne tire pas les cheveux, fais-en ton fidèle compagnon. Tu verras alors qu'en dehors de lui, tu n'as nul compagnon. Ô fille du vent et du désert, et ma fille me tenant fidèlement compagnie, étreins ton corps chaque fois que le froid te mord, protège-le bien du délire. Tu ne connais que trop ses secrets, et tu es la seule à pouvoir faire taire ses halètements. Protège-le des visages qui te crient à l'âme, le chemin n'a jamais eu de secret pour toi. Alors retiens mes conseils si tu veux être sauve. Poursuis ton chemin. Même si le temps s'assombrit autour de toi, dans la pénombre, la lumière se révèle et la vérité déroule devant toi sa chevelure ivoire. Ressors ta lumière occultée, laisse-la te guider. Là où des papillons étincelants croissent autour de toi, chantent pour t'assurer de leur présence. Va jusqu'au bout du chemin, même si ton corps tremble à l'écoute d'un froissement au loin. Fais que le bruit ne soit qu'un passant. Fais-lui écouter le battement de ton cœur et écoute-le entonner ses chants. Ce hurlement est une prière. Unis-toi à celle-ci. Il s'unira à toi et te sera d'une fidélité sans faille. Observe bien le chemin. Ce que tu prends pour de l'isolement est ta sécurité. Et ce qui t'effraie dans la rapidité de la marche vers lui, affronte-le pour en avoir le cœur net. Il n'y a pas de mal à prendre un peu de repos. Mais je te préviens, ne te réfugie pas dans le plaisir des battements de ton corps saignant par des trous. Bouche-les avec du sable. Laisse ton corps souffler un peu et ton âme arpenter la jungle. Aspire toute la poussière qui te tombe dessus en autant de vocables de survie. Permets à la nuit de se soulager de toi et tends l'oreille au hurlement adressant ses psalmodies au matin. Élance-toi et prends garde à ne pas regarder derrière toi. La voie est ouverte sur tous les possibles et plus tu t'y engages, plus l'obscurité se renforce. Et les branches se font inextricables. Peu importe si elles t'égratignent le visage, en fait, elles n'égratigneront que les masques. Laisse-les te les ôter. Ton visage éblouissant se révélera et tu brilleras comme jamais auparavant. C'était un texte de Fatina Algora, qui est née en 1974 à Gaza. Elle réside maintenant à Anvers, où elle anime un salon poétique et musical qui met en dialogue les cultures arabes et flamandes. Journaliste et traductrice littéraire de l'anglais et du néerlandais vers l'arabe. Son œuvre littéraire compte plusieurs recueils de poèmes. La guerre a éclaté lors de sa présence dans la maison de sa famille à Gaza. Elle en a donc vécu les horreurs pendant des semaines. Niamat Hassan est née à Rafah en 1980. Elle a quitté Gazaville au début de la guerre pour se réfugier à Deir al-Balah, où elle a travaillé en tant qu'assistante sociale. Elle a publié jusqu'à présent 2 romans. Dans la file. Nous avons perdu la notion du temps. Et les rendez-vous se tiennent avec nous dans la même file. La file du pain, la file de l'eau, la file de la peur, la file du temps, la file de la mort. La vraie résistance consiste à revenir de toutes ces files en ayant gardé l'intégralité de ton corps. Ton âme en a pris un coup, ça ne fait rien. Dans la file, une jeune fille essaie de se rappeler le sens de sa féminité. Un homme chante pour le four à pain. Un autre essaie de comprendre le vacarme de la rue en flammes. Et moi, arrêtée au milieu de l'histoire, je fourre les oiseaux dans ma tête de peur que les arbres ne s'enfuient. Dans la file, une vieille dame maudit le champ et les épis. Elle récite à qui veut l'entendre les noms des villes hautes, coud les cordes de la faim pour en faire un grand sac de farine suffisant aux besoins des gardiens des tentes. Dans la file, toi et moi, une fillette se rongeant les ongles, un homme crachant sur la guerre, une femme se passant du rouge à lèvres sous son voile, et pas d'eau dans la ville pour laver nos péchés. Mais nous mettons au défi l'enfer d'apprêter un seul pain chaud juste avant le rendez-vous avec la mort. Hind Djoudé est née en 1983 dans un camp au centre de la bande de Gaza, poétesse, nouvelliste et animatrice d'émissions et de revues littéraires. Après la destruction de son appartement en novembre 2023, elle a connu le sort des déplacés jusqu'à ce qu'elle trouve le moyen de se réfugier en Égypte. Que peut bien vouloir dire être poète en temps de guerre ? Cela veut dire que tu dois t'excuser sans compter auprès des arbres en flammes, des oiseaux sans nid, des maisons pilonnées, des énormes crevasses au mi-temps des rues, des enfants pâles avant et après la mort, et auprès de chaque mère triste ou trépassée. Que peut bien vouloir dire être en sécurité en temps de guerre ? Cela veut dire avoir honte de ton sourire, d'être au chaud, de tes habits propres, de tes heures d'ennui, de tes bâillements, de ta tasse de café, de tes aimés encore vivants, de ton peuple, de l'eau disponible, de l'eau potable, de pouvoir prendre un bain et de te rendre compte que tu es encore vivant. Oh mon Dieu, je ne veux pas être une poétesse en temps de guerre. Doha Al-Kalout est née en 1996 à Gaza. Elle a enseigné la langue arabe. Depuis l'invasion, elle fait partie des déplacés en permanence. Elle continue toutefois à enseigner dans les différents camps où elle a trouvé refuge. Son recueil de poèmes « Semblables » a été publié en 2018. Séparation. Absente est ton ombre. Ma main lourde de larmes. Tu es parti. Tu as noyé ce qui a sens. Terrasser les mots. Tu agites la main des questions et sur le chemin tu dessines les pas. Je me soulève, compte tes images et mange mon cœur. Allah Al-Khatraoui est née à Gaza en 1990. Elle a publié en 2012 son premier recueil de poèmes. Pendant la guerre, elle a vécu une affreuse tragédie, la perte de ses 4 enfants lors du bombardement de sa maison et l'interdiction qui lui a été signifiée par les forces d'occupation de faire fouiller les décombres afin de retrouver leur corps. Je ne vais pas bien. Je marche sur les aiguilles de la fierté en faisant le tour des martyrs, sujette à la fièvre des condoléances. Je m'accrois davantage qu'un arbre millénaire, que la mère de la séparation. Je ne vais pas bien. Et comment le pourrais-je ? Alors que j'ai vu un père chenu, une photo entre les mains, s'adresser à un enfant qui lui ressemble et lui dire chaque matin « Mon chéri ». Maintenant que la photo est accrochée au mur, il s'adresse à nous. Ah, s'il lui avait laissé juste la joue pour que je puisse l'embrasser, elle a fondu au cours du bombardement. Comme j'ai envie de le serrer contre moi, la faim et l'envie folle des étreintes sans cesse me tenaillent. Je ne vais pas bien, car j'ai cru avoir survécu à la guerre, mais en vérité, j'y suis morte plusieurs fois plutôt qu'une, même s'ils ont cru que j'y ai survécu. Youssef Al-Khidra est né en 1983 à Gaza. Il a fait des études universitaires de langue arabe et de communication à l'université Al-Azhar de sa ville, puis préparé un doctorat portant sur la critique littéraire. Il a publié jusqu'ici 5 recueils de poésie. Que peut faire un poème ? Je peux écrire un poème avec le sang qui coule, les larmes, la poussière remplissant ma poitrine, les chenilles du bulldozer, les restes humains, les décombres de l'immeuble, la sueur de la résistance civile, les cris des enfants et des femmes, la sirène des ambulances, les débris d'un arbre que j'aime, avec tous ces visages qui s'enquièrent de leur disparu, le cri du petit Anas enfoui dans les décombres, je suis encore vivant, avec les cadavres défigurés à l'attente, puis l'attente et l'attente. Je peux écrire un poème avec le désarroi fracassant, le silence nu, la neutralité visqueuse, l'impuissance déclarée et, en me mettant à plat ventre devant l'Amérique, que peut donc bien faire un poème ? La guerre a pris fin. J'ai examiné mon corps, ma tête, mes doigts et mes bras. Rien ne manquait. Comme si tout avait regagné sa place sur le champ. J'ai regardé le ciel. C'est quoi, là ? De la fumée ou des nuages ? Les oiseaux me manquent, pas les avions. La guerre a pris fin. Le balai a enlevé la poussière, les bris de verre, les clous de la porte cassée, les cailloux réduits en gravats, les éclats des verres de thé, le cadre de la photo de famille, et a repoussé le tout dans mon cœur. La guerre a pris fin. Ma mère est arrivée pour s'excuser. Elle a dit: il n'y a plus de place pour t'accueillir, le cimetière est plein à craquer. La guerre a pris fin. J'ai posé la main sur ma tête et me suis mise à courir. Il ne pleuvait ni ne faisait soleil et je n'étais pas pressée. J'avais simplement pris l'habitude de me protéger la tête. La guerre a pris fin. Je me suis procuré beaucoup de pain, un pain pour chaque ami, et me suis rendu au cimetière. La guerre a pris fin. J'ai pensé à dormir. Mes amis qui ont voyagé sont tous revenus pour que nous passions ensemble la soirée. J'ai bu mon thé seul. La guerre a pris fin. J'ai éteint mon téléphone et j'ai dormi. Une autre guerre a commencé dans les cauchemars. Les enfants sont retournés à l'école. Ils l'ont trouvé bondé de déplacés. Les ouvriers sont retournés à l'usine. Ils l'ont trouvé morte. Les médecins sont retournés à l'hôpital. Ils l'ont trouvée malade. Tout le monde redoutait de retourner aux maisons, de crainte de ne pas les retrouver. Alors, ils sont montés vers Dieu. Les oiseaux avaient tout vu. Les tueries, les bombardements, la dévastation. Et quand la guerre a pris fin, ils ont repris leur pépiment. Ce dernier texte a été écrit par Nasser Rabah, qui est né en 1963 au camp d'Al-Maghazi, dans la région centre de Gaza. Il a fait des études d'agronomie, il a publié plusieurs recueils de poèmes, ainsi que deux romans. Nous arrivons à la fin de cette émission. Que signifie être poète en temps de guerre? Comment donner du sens à l'écriture quand on côtoie l'horreur et l'inhumanité? Telles sont les questions qui taraudent les auteurs et les autrices dont vous venez d'entendre les textes. Cependant, ils et elles continuent à écrire, peut-être justement pour conserver une part d'humanité au milieu d'une telle dévastation et parce que les mots restent leurs seules armes contre le désespoir. Et pour nous, qui sommes informés journellement de ce qui est en train de se passer à Gaza, lorsque nous lisons ces textes, nous ne pouvons qu'avoir encore plus honte du silence qui entoure ce massacre. Je terminerai en citant cette phrase de Mahmoud Darwish auquel j'avais consacré l'émission d'octobre dernier. « Où les oiseaux sont-ils censés voler après le dernier ciel ?» Et c'est de cette question que le musicien Anwar Braham s'est inspiré en intitulant son album « After the Last Sky »,« Après le dernier ciel ». Je vous donne rendez-vous au jeudi 19 juin prochain. À bientôt.
Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.